Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré.
Nous avons le plaisir d'avoir nos deux invités en studio cette semaine. C'est un grand bonheur pour moi de pouvoir vraiment dialoguer avec nos invités. Et on disait d'entrée de jeu que les deux organismes avaient comme particularité, point commun, qui sont basés sur l'entraide. Et dans le modèle dont on va discuter avec Connie Blot, c'est vraiment un organisme qui a développé là, cette importance-là de s'entraider quand on vit une même problématique. Et dans ce cas-ci, c'est la santé mentale. Alors, Connie Blot de l'organisme L'Avant-Garde. Bonjour.
Bonjour.
Expliquez-nous un peu la particularité de votre modèle à L'Avant-Garde. Puis j'imagine que le nom, hein, déjà dit un peu qu'il y a quelque chose d'innovateur.
Bien, l'innovation, c'est issu du mouvement des personnes utilisatrices des services en santé mentale du Québec. C'est un vieux mouvement. Puis là-dedans, il y a eu des ressources qui ont été mises sur pied, dont les groupes d'entraide. Donc, L'Avant-Garde, à base, c'était un groupe d'entraide. Aujourd'hui, c'est pas mal plus que ça, là, mais on est parti comme ça. Donc, notre job, c'est de réseauter les gens ensemble, puis ils trouvent des solutions à leur situation. La santé mentale, pour nous, c'est plus collectif qu'individuel. Mmh. Donc, de mettre les gens ensemble, bien, ils peuvent demander des changements, ils peuvent s'entraider, ils font plein d'affaires ensemble.
Connie, vous dites quelque chose qui me touche beaucoup. La santé mentale, c'est plus collectif qu'individuel. Et on dirait que c'est un point qu'on oublie, quel point c'est tout un système qui fait en sorte qu'on peut traverser des enjeux difficiles. C'est toute la société en tant que citoyen, en tant que voisin, en tant que membre d'une famille. Donc, comment vous le brossez, ce côté-là collectif? Comment la société autour de nous, puis le collectif, peut avoir une influence sur notre santé mentale?
Bien, on pense juste présentement à l'enjeu des logements. Juste prendre cet enjeu-là, il y a des gens qui vont croire qu'ils développent des problèmes de santé mentale parce qu'ils vont perdre leur logement, ils font de l'anxiété et tout ça. Mais c'est normal de se sentir comme ça si tu penses que tu vas perdre ton logement puis que tu n'auras pas d'autres logements, tu sais. Fait que de dire à quelqu'un, bien, tu as un problème d'anxiété, pour nous, c'est de noyer la vraie raison sur laquelle la personne devrait travailler, tu sais. Fait que nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'en se réseautant, bien là, les gens se rendent compte, « Oh non, j'ai pas vraiment un problème, c'est normal ce que je suis en train de vivre. » Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la normalisation des problèmes de santé mentale. On trouve ça dommage de dire à tout le monde que tu as un problème de santé mentale quand c'est totalement normal dans une situation comme ça de vivre ça.
C'est drôle, vous m'amenez à une réflexion sur tout le volet politique dans la vie où comme il y a beaucoup de gens là, qui vont faire de la méditation, du yoga pour gérer leur stress, alors qu'ils vivent des conditions de travail qui sont inacceptables.
C'est ça.
Et ce qu'il faudrait, c'est régler la situation à la base plutôt que d'apprendre à gérer notre stress dans une situation qui n'a pas de bon sens.
C'est exactement ça. Les professeurs dans les écoles, on le voit beaucoup, tu sais, les profs qui est là, ils disent « Ah, les profs partent en burn-out en congé maladie. Oui, mais c'est des conditions épouvantables. Tu sais, si tu veux être professeur, c'est parce que tu adores, je pense, les enfants. Puis là, tu vois que les enfants souffrent tellement dans les écoles en ce moment. Fait que, tu sais, entre ton incapacité à agir sur le bien-être de cet enfant-là, puis le travail qu'il faut que tu livres une marchandise pour le ministère de l'Éducation, bien, c'est normal que tu te sens comme humain là-dedans, dépassé, puis etc. Fait que, les profs sont en arrêt plutôt que d'être ensemble puis de régler la situation pour ces enfants-là.
Quand vous dites les enfants souffrent, qu'est-ce que vous observez?
Bien, tu sais, on le voit beaucoup, là, ils multiplient les diagnostics des enfants. Les enfants sont moins enclins, ils se battent pour aller à l'école. Tu sais, on a vu, là, dans le journal, il y avait eu un enfant Longueuil qui a été arrêté, il voulait pas aller à l'école, le petit enfant. Fait que tu dis, comme société, on est rendu là? Tu sais, dans le fond, aller à l'école, un enfant devrait débouler de son lit pour aller à l'école, il devrait être heureux d'aller à l'école, mais là, les enfants se battent pour plus aller à l'école. Il me semble que c'est un signe qu'il faudrait regarder comment on gère les écoles, qu'est-ce qu'on offre. On n'est pas obligé de travailler comme on travaille, hein?
Oui,
donc,
bien, je...
c'est des choix de société qu'on fait que d'avoir des écoles dans ces conditions-là. Mais de continuer à dire que les enfants, il y a un paquet de problèmes, essayer de contrôler, c'est... ces problèmes-là, d'ajouter un paquet de professionnels pour entourer l'enfant, mais est-ce que l'enfant est encore heureux? Mm. Même s'il y a tout ce monde-là autour de lui, peut-être qu'il va réussir à l'école, mais est-ce qu'il est heureux?
Mm. Mm. Bien, c'est sûr que là, c'est un volet, l'éducation, puis c'est pas nécessairement la spécialité de l'avant-garde. Ceci dit, je peux comprendre la pression, par exemple, sur l'enseignant dans la côté de normaliser, parce que si tu n'y arrives pas, en plus, tu peux te sentir coupable, ce qui développe d'autres enjeux. Fait que ça devient comme un cercle vicieux, quelque part.
C'est ça, oui, exact. C'est ça. Ouais.
Et quand on parle de l'avant-garde, là, on a évoqué des enjeux de santé mentale qui sont normaux, dans des conditions où tous, à un moment donné, on devient dépassé par certains événements. Ouais. Mais jusque où va l'action? Parce que entre être dépassé et entendre des voix, c'est très large là, comme spectre au niveau santé mentale. Fait qu'expliquez-nous un peu votre organisme. Comment vous couvrez la santé mentale? Jusqu'où on va?
Bien, nous, on fait ce qu'on appelle la gestion du quotidien. Mm. Fait que quelqu'un peut arriver sans rendez-vous. La plupart des gens n'ont pas de rendez-vous quand ils arrivent chez nous, puis on va dire, OK, comment on peut t'aider aujourd'hui? Mm. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'accompagner? Fait que ce soit un enjeu ponctuel dû, mettons, justement à la perte d'un logement, il y a la perte totale de tout aussi, ou d'entendre les voix, on travaille exactement pareil. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec les diagnostics, on va travailler avec ce qui dérange la personne.
Ah, d'accord.
OK? Donc, si ces voix la dérangent, on a quand même des groupes d'entendeurs de voix. Toutes des alternatives, exact.
Donc, des groupes d'entendeurs de voix.
Exact. Tu sais, v'là 30 ans, on disait, faut pas parler des voix au monde qui entendent des voix. Mm. Aujourd'hui, c'est le contraire. Faut en parler. Ça fait du bien aux gens de parler de leur voix puis d'apprendre à rentrer en relation avec ces voix-là. Mm. Donc, on sait encore une fois, on met des gens en commun qui ont un problème similaire puis comment que je vais régler ça. Fait que les groupes d'entendeurs de voix ont commencé exactement de la même façon. C'était des gens ensemble, puis ils se sont aperçus que quand ils pouvaient parler de leur voix vraiment en profondeur, ça les aidait à vivre avec ces voix-là. Okay.
Mais vous ne vous substituez pas au travail d'un psychiatre, par exemple?
Pas du tout.
Il n'y a vraiment pas tout l'aspect de médicamentation relié à tout ça, là.
Bien, c'est-à-dire, nous, on a un programme gestion autonome des médicaments. Mais si quelqu'un, par exemple, voit un psychiatre, on va pouvoir même l'accompagner, mais on va faire aussi des rencontres où est-ce qu'on apprend aux gens à se préparer pour leur rencontre. Mm. Chez psychiatre, parce que ça paraît pas, mais c'est compliqué.
Oui, c'est complexe, puis j'imagine que c'est apprécié des médecins déjà qui a beaucoup de roulement dans leur cabinet, de voir quelqu'un minimalement là, qui comprend la situation, puis qui est capable de poser des questions aussi, réfléchi sur sa situation. Tu te sens pas dépassé à entendre des termes que tu connais pas.
Oui, c'est ça. Même les psychiatres qui aiment ça, ils voient quand quelqu'un est préparé. Mm. Tu sais, c'est des visites qui sont assez rapides. À la base, souvent, les gens qui vont dire « je veux voir un psychiatre », ils pensent qu'ils vont rencontrer plus un psychologue, plus un travailleur social. Mm. Fait que déjà, de démystifier le rôle du psychiatre dans sa vie, c'est beaucoup. Après ça, de démystifier les médicaments. Les psychiatres qui connaissent pas ça, des fois, ils ont peur un peu, mais la gestion autonome des médicaments, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment un guide. C'est un guide écrit là, qui a été travaillé longtemps. Puis ça aide les gens à comprendre les médicaments, comprendre l'importance de gérer adéquatement les médicaments. Puis quel suivi faire avec son psychiatre par rapport à son médicament?
Bien, j'ai une personne que je connais bien qui a un TDAH à côté dans le plafond, on va dire ça comme ça. Et c'était ça, justement, de prendre son médicament à temps. Je dis, bien, mets une alarme. Puis là, c'est comme, bien, j'ai oublié de mettre mon alarme. Puis là, je me sentais un petit peu impuissante à dire, mais c'est quoi les autres trucs? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider?
Ouais. Bien, nous, quelqu'un comme ça qui... Parce que souvent, le médicament seul, c'est pas assez, tu sais. Il y a aussi les effets secondaires des médicaments et tout le kit, là, tu sais. Fait qu'on va vraiment accompagner la personne dans... Quand on parle d'une quête de sens, c'est qu'est-ce qui te fait du bien? Mm. Donc, peu importe le diagnostic, c'est quoi le comportement que t'aimes pas? OK? C'est quoi le sentiment que tu n'aimes pas, etc.? Fait quelqu'un qui, pour ne pas les nommer, qui va dire, moi, faut que je bouge, faut que je bouge, faut que je bouge. Mais qu'est-ce que tu peux rentrer dans ton hygiène de vie qui va devenir une habitude, qui va t'aider à canaliser ton énergie, puis on va travailler ça avec les gens.
OK, j'aime ça. On est vraiment dans la recherche de solutions.
Toujours. Okay. Ouais.
Parlez-moi de votre équipe d'intervention.
Bien, on a un volet groupe d'entraide, milieu de vie et milieu d'hébergement. Donc, on a une équipe, puis l'hébergement, c'est au seuil. Ça veut dire
au
que...
Au seuil?
Oui, au seuil, ça veut dire que les gens peuvent être sous conso.
Donc, ils pourraient avoir consommé.
Ouais.
Donc, je comprends, on va parler des deux volets tout de suite après, mais juste pour clarifier ça, il y a des milieux que tu peux pas... Si tu as consommé, tu peux pas entrer.
Exact, c'est ça. Tandis que nous autres, ça l'a toujours été. On développe avec le groupe, hein, selon l'expertise du groupe. Donc, ça a toujours été, tant que la personne ne la dérange pas, c'est pas parce que tu as consommé que tu vas avoir un comportement dérangeant non plus. Mm. Des fois, tu es un peu plus tannant, un peu plus de bonne humeur, là, mais bon, si on est capable de vivre avec ça.
Ouais, ou à l'inverse, ça peut développer... Okay. Donc, vous êtes une équipe, combien d'intervenants?
Il y a 13 intervenants en ce moment. C'est ça. Il y a 13 intervenants, oui, en ce moment.
Et donc, un volet, le volet communautaire et le volet hébergement. On a un petit peu parlé, je crois, du volet communautaire. Le volet hébergement, c'est l'hébergement temporaire?
C'est un hébergement d'urgence qui a été, on l'a développé pendant la COVID. On avait besoin de place, donc on fait partie des ressources qui ont été mobilisées pendant la COVID. Puis ça continue, ça va super bien, le volet hébergement aussi. Puis ça, pour nous autres, c'est un outil de plus pour aider les gens, tu sais, dans le sens où est-ce que là, quand on a besoin d'un hébergement temporaire pour les gens qui vont pas bien, bien, ils ont une place aussi parce qu'on va faire de la prévention.
Combien d'unités sont disponibles?
On a 8 lits permanents, 3 d'urgence. C'est sûr que quand s'il y a un grand froid, quelque chose, on va faire de la place dans nos autres locaux dans ce temps-là. Tu sais, s'il y a une grande vague de 4-5 jours.
Les fameuses haltes chaleur.
On a ça aussi. On a une halte chaleur aussi qui fait partie de ce qu'on fait. Puis on a une halte fraîcheur, on y pense pas.
Oui, la climatisation, c'est important aussi.
Ouais.
Et quand on parle de milieu de vie, vous disiez tout à l'heure, les gens arrivent. Donc, c'est vraiment comme un endroit pignon sur rue. Mais premièrement, vous êtes dans quel secteur?
On est à la prairie. Mm-hmm. La maison est à la prairie. C'est une belle maison ancestrale. Mm-hmm. Donc, quand tu arrives, tu penses pas que tu es dans une ressource santé mentale ou itinérance. Là, t'sais, c'est une belle maison. Puis, il y a une cuisine. Elle est juste plus grande qu'une maison ordinaire. Parce que la principale pièce où est-ce qu'on est, c'est vraiment la cuisine. Parce que nous autres...
Comme dans toutes les familles québécoises, hein?
Exact, c'est ça. Puis la nourriture centrale, comme outil de travail avec les gens, la nourriture est centrale. Ça nous permet de faire un paquet de discussions autour d'un café, d'un gâteau, etc. Puis il y a des... on a une salle de musique, on a une salle multi... multifonctionnel. Il y a des petits bureaux qu'on prête aussi aux partenaires ou les gens qui veulent se rencontrer. On a des lits un petit peu de partout. Mm. Donc, si quelqu'un dans le jour a besoin de faire de se coucher un peu, ils peuvent. Ils ont accès à une salle de bain, une douche. Ils peuvent manger, ils peuvent faire leur lavage.
Donc, quelqu'un peut venir comme ça, faire une sieste, prendre une douche, venir juste prendre un café.
Oui.
Puis, est-ce qu'ensuite... Il s'inscrit dans un programme comme tel, dans une cohorte?
Il n'y a pas vraiment... Il va être invité. Par défaut, quand la personne vient, il y a des gens qui vont se mobiliser pour y jaser. Mm-hmm. Puis là, il va être invité. On a un popé calendrier d'activités pour permettre aux gens de se retrouver. On a toutes sortes d'affaires. On peut avoir autant de l'occupationnel qu'une conférence, qu'une formation. On donne beaucoup de formations. Puis nous autres, les gens sont invités dans nos formations.
On va juste peut-être clarifier qu'est-ce qu'on veut dire par occupationnel, puis ensuite, on va faire une courte pause, puis on va parler de votre programme d'activité.
OK. Occupationnel, c'est exemple, aujourd'hui, si on partit à cabane à sucre.
Ah, d'accord.
OK. Fait que ça permet de travailler sur le réseau. Mm. Souvent, les gens, ils n'ont plus de réseau.
Ouais.
Notre job dans le cadre de l'entraide, c'est de réseauter les gens ensemble. Fait que c'est dans des activités comme ça, surtout, qui vont développer des amitiés,
mm.
puis qui va faire que le samedi soir, quand on est fermé, ben un va appeler l'autre, ça te tente-tu ouais. d'aller aux vues, ça te tente-tu de...
Puis on le sait à quel point, moi, en tout cas, j'ai été étonnée de voir à quel point ça avait un impact, les relations sociales, autant sur la santé mentale, mais sur la santé physique
ah,
aussi.
Oui, absolument.
C'est impressionnant dans les facteurs de longévité. Hein, on le cite comme étant aussi important que l'alimentation, l'exercice, le sommeil.
Ouais. Mais on le voit, tu sais, quand on a des gens qui vont arriver qui sont hyper hypothéqués, tu sais, qui sont plus en forme, qui mangent mal, sont grisâtres, tu sais, ils ont mal à l'âme, là.
Ouais.
Puis on le voit quand ils commencent à rentrer dans le réseau. Tu sais, là, tu vas voir, mettons, il y a une activité, je sais pas, moi, ils se sont préparés un film, on fait des films critiques, tu sais, puis tout ça. Ils vont arriver, puis là, oups, déjà, là, quand ils vont arriver, il y a un sourire qu'il n'y avait pas, tu sais.
La posture se redresse.
Tranquillement, pas trop vite. Puis là, ils commencent à faire des activités physiques, puis tu vois que tranquillement, pas trop vite. Puis c'est sûr qu'on essaie de travailler aussi, qu'ils voient un médecin, qu'ils voient, tu sais, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Puis là, tu vois la personne qui commence à aller de mieux en mieux. Ça, c'est vraiment le bon côté de notre job, de voir ça, là.
Belle récompense concrète. Connie, on fait une courte pause, puis on revient tout de suite après au Héros anonyme.
Ça marche, merci.
Dernier bloc des Héros anonymes, on complète une fort intéressante discussion avec Connie Blot de l'Avant-Garde Santé mentale. Donc, on a parlé volet communautaire, volet hébergement et on évoquait là, des activités. Donc, quelle sorte d'activités vous offrez puis qui peut y participer?
En fait, on essaie d'avoir un éventail qui fait que les gens sont capables de se retrouver là-dedans. L'objectif de nos activités, c'est toujours d'essayer de développer le regard critique des gens sur la santé mentale.
Mm.
Tout ce qu'on fait. Donc, on est aussi réseauté avec des partenaires, avec des regroupements. Là, il y a un mouvement qui est beaucoup plus grand que nous aussi, là. De ce temps-là, ce qu'on a fait pour... Parce qu'on était un petit peu découragés de percer dans notre volonté qu'on parle de la santé mentale en étant quelque chose de normal, mais les émotions aussi.
Mm.
C'est normal d'avoir des émotions. On dit toujours, nous, qu'on a intégré le vocabulaire des psychiatres. Mais un humain, c'est un humain, hein? Donc, c'est des émotions qu'on vit, puis il y a beaucoup d'émotions qui sont complètement normales, mais aujourd'hui, on pense que c'est anormal.
Comme quelles émotions, par exemple? Est-ce qu'il y a des émotions qui sont plus faciles à exprimer? Tu sais, la colère, par exemple, quand on est une femme, on dirait que c'est pas nécessairement bien vu, ou à l'inverse, un homme d'admettre qu'il se sent dépassé ou d'admettre, puis là, je catégorise à très gros traits, on s'entend, là, d'être capable de nommer ces choses-là. Il y a quand même plusieurs campagnes où on voit que c'est important de parler, de le dire. Il y a quand même eu un gros travail de fait pour la santé mentale, mais de ce que je comprends, il y a encore beaucoup de travail.
Oui, bien, c'est sûr qu'il y a eu un gros travail de fait, là. C'est incroyable qu'aujourd'hui, on en parle autant. Mais pour nous, il y a encore un grand travail à faire pour rendre ça normal. C'est pas un problème, c'est une normalité, mais faut... Si tu vois ton problème de santé mentale comme un symptôme, point à la ligne, t'es moins enclin à agir sur ta situation. Donc, vu que ce qu'on voit quand les personnes se parlent puis qu'on est tous ensemble, c'est surtout des enjeux sociaux. Donc, c'est beaucoup à démystifier, mais quand tu rentres toujours ça dans le camp de la santé mentale ou du problème de santé mentale, bien, t'es moins enclin à dire « je vais aller participer à une discussion comme ça » parce que c'est pour ceux qui ont des problèmes de santé mentale. Oui. Non, c'est des problèmes de citoyens. On a à peu près tous les mêmes citoyens. Il y a, comme tantôt on a parlé, là, des gens, les entendeurs de voix, c'est des problèmes particuliers, mais c'est beaucoup plus rare que toutes les gens qu'on voit au quotidien.
Mais on le sent en ce moment, là, il y a, au niveau du moral, c'est sûr, l'éco-anxiété chez les jeunes, on en parle, la crise du logement. Depuis l'arrivée au pouvoir d'un certain personnage chez nos voisins du Sud, on sent qu'il y a une plus grande anxiété aussi sur l'incertitude économique et autres. Est-ce que vous le ressentez aussi?
Beaucoup, oui, oui. Beaucoup. Mais encore une fois, tu sais, si on dit j'ai un problème d'anxiété parce qu'il se passe telle affaire, est-ce que tu as vraiment un problème?
Alors que c'est normal de dire il se passe quelque chose là, qui ne l'est pas normal, justement.
Exact, c'est le phénomène qui n'est pas normal. Ouais. Tu dis OK. Donc, collectivement, si on se met ensemble pour essayer de trouver une solution de comment gérer ça, bien, ça devient beaucoup plus facile que de le faire individuellement puis de se rentrer dans tout un processus que moi, j'ai une anormalité, j'ai un symptôme qui est anormal.
Est-ce que c'est pas le propre de notre société qui est devenue individualiste aussi de composer soi-même avec quelque chose qui, comme on le disait tout à l'heure, est un problème collectif qu'on devrait s'entraider ensemble pour le régler?
Oui, c'est ce qu'on voit beaucoup. T'sais, on le voit beaucoup. On peut prendre aussi les aînés comme exemple. Oui. T'sais, un aîné qui va faire face à un CHSLD, qui ne veut pas y aller, mais c'est un problème de société. T'sais. Quand est-ce qu'ensemble on va adresser cette situation-là puis de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens aient le goût d'y aller, qu'ils se disent, quand je vais avoir cet âge-là, je vais être bien là. Là, c'est quand je vais avoir cet âge-là, je ne serai pas bien. Fait que c'est sûr que tu commences à regarder ça puis tu dis...
Avec inquiétude. Donc, est-ce que ça vous amène, par exemple, à créer un partenariat, des projets pour changer des choses socialement?
Oui. Bien là, ce qu'on a mis en place, c'est un documentaire. On est en train de faire un documentaire qui est assez important, justement, qu'on essaie de faire. On essaie toutes sortes d'affaires. Puis là, on est rendu au documentaire pour que les gens voient un petit peu l'approche, comment qu'on travaille avec les gens, l'impact. Puis ça permet aux gens aussi de s'exprimer sur ce qu'ils vivent, comment qu'ils vivent, etc. Fait que ça, on est pas mal contents. C'est 2025, c'est notre gros projet. À ça, on a aussi monté une série de formations. Comment qu'on accompagne on appelle ça une pratique citoyenne. Donc, comment qu'on accompagne dans une pratique citoyenne pour démontrer que ça donne des résultats parce que tu sais, les gens, la ressource, c'est toujours, c'est des gens qui ont des problèmes de santé mentale, ils ont bien de la misère. Non, c'est des citoyens comme toi puis moi. Fait que quand on forme les gens sur qu'est-ce qui se passe puis comment accompagner tout ça, bien, ça fait des petits, ça, dans la communauté. Là,
oui. Est-ce que vous êtes présent dans les organisations aussi? Je sais qu'il y a beaucoup de programmes d'aide aux employés. Est-ce que vous avez des prestations de services?
On n'est pas rendu là. On a beaucoup plus de demandes que ce qu'on est capable d'offrir en ce
malheureusement.
Moment. Malheureusement. Oui, c'est surtout... ça a beaucoup augmenté les demandes de partenaires puis d'entreprises et tout ça. Là, j'ai un autre monsieur qui m'a appelé, là, « Tu viendrais-tu? Vous pourriez-vous faire quelque chose? » Peut-être l'année prochaine, là, on essaie vraiment d'ouvrir parce qu'on pourrait travailler en amont, justement, puis agir sur la vision de la santé mentale, de mettre ça dans une connotation normalisante, là. Donc, on a, comme je vous dis, on a plus de demandes qu'on est capable, mais on en fait pas mal. On travaille beaucoup avec les partenaires. Tu sais, il y a beaucoup de partenaires communautaires. On travaille avec le réseau beaucoup aussi. On travaille avec la police. On fait des tournées avec la police. C'est assez intéressant ce qu'on travaille avec eux autres.
Des tournées à quel endroit?
Dans les corps policiers, des différents corps policiers pour faire de la sensibilisation. Parce que, tu sais, les policiers, c'est pas facile non plus. On peut les blâmer de bien des affaires, mais là, Je veux dire, c'est tellement large les compétences qu'il faut qu'il y ait aujourd'hui.
Bien, on voit depuis que Fadi Daguerre est là au niveau de la police de Montréal, qu'il y a un tournant, justement, une écoute vers le communautaire, d'être plus à l'écoute des émotions pour réussir à endiguer ce qui peut se transformer en violence, alors que si on normalise, qu'on est fâché, bien, ça risque moins d'exploser.
Ouais. Puis les gens aussi, ce qu'ils nous disent, bien, de voir arriver une police... Bien, à la détresse qu'ils vivent, là, ils ont peur de la police. Tandis que s'ils voient arriver un intervenant, c'est beaucoup plus rassurant pour les gens. Mais il y a aussi tous les outils qu'on va donner aux policiers. Tu sais, il y a quand même des choses qu'on peut faire pour les soutenir aussi. Ça, on a une bonne complicité.
Mais même eux autres aussi, hein, avec toutes les situations qu'ils observent, il y a des enjeux de santé mentale dans beaucoup d'intervenants de première ligne, les ambulanciers qui vivent, les pompiers qui vivent et observent des situations difficiles parfois.
Ah oui, c'est difficile, c'est... Eux autres, je dis tout le temps, ils voient le pire. Ouais, ils voient l'humain dans sa plus grande détresse, quasiment, j'imagine, en tout temps. Là,
puis on parlait tout à l'heure d'être un peu en amont. Si on est une personne intéressée à sa santé mentale...
Bienvenue.
Oui, c'est ça. Je pense que vous avez un endroit où on peut faire de la recherche, une bibliothèque.
Oui, exact. C'est ça. À l'intérieur de la ressource, on a un petit centre de recherche qui est assez bien monté. Il y a des ordinateurs, il y a beaucoup de... promotion des alternatives. Il y a beaucoup d'alternatives. Hein? Quelqu'un qui se sent toujours avec des hauts et des bas, nous autres, on va lui dire, t'as-tu essayé l'acupuncture? On a vu beaucoup de résultats. Donc, il y a toutes sortes de promotions des alternatives.
Ben oui, j'ai vu ça, que vous aviez un atelier d'acupuncture sociale. Je trouvais ça spécial, le mot social.
Oui. C'est ça. Fait que c'est les gens vraiment qui apprennent entre eux autres des points d'acupuncture là, avec les intervenants. Fait qu'on va beaucoup dans les alternatives pour que les gens... Parce que, comme je dis tout le temps, quand le côté médical fonctionne, quand les médicaments fonctionnent, ça sera pas les gens qui vont venir chez nous. Ça va être beaucoup ceux avec qui ça fonctionne pas, ça marche pas, ils savent plus quoi faire. Fait qu'on essaie toutes sortes d'affaires.
Mais vous parliez d'alimentation tout à l'heure. J'imagine que l'alimentation joue un rôle aussi sur la santé mentale.
Absolument.
Tout ce qui est hygiène de vie.
Oui, on a des ateliers juste sur l'alimentation, tellement que l'alimentation, maintenant, elle a un gros impact sur ta santé mentale.
On se renseigne où, Connie, si on veut connaître tous ces ateliers?
Sur notre super site Internet, on a un site Internet où est-ce qu'on essaie de mettre tous les outils. On a des boîtes à outils qu'on appelle. Il y a le calendrier des activités, il y a tous les événements. On essaie vraiment de tout mettre sur le site. Puis on a un Facebook.
Excellent. Bien, on invite nos auditeurs à découvrir tout ce que vous pouvez offrir, que ce soit pour eux ou pour des gens qui connaissent. C'est toujours bien d'avoir tout ce support-là. Puis moi, j'ai envie de dire, belle grande marche au plein air. Ça fait du bien au moral.
Ouais.
Donc, je rappelle que tous nos épisodes des Héros anonymes sont disponibles en balado-diffusion, canalem.vusezvoix sur l'ensemble des plateformes de balado-diffusion. Et un grand merci à notre équipe, Catherine Mathieu, Jean-Sébastien Laliberté, Chantal Doré au micro avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.